Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans votre podcast sur le développement personnel, le life hacking, la productivité. Je suis Guillaume et je suis ravi de retrouver Julien et Matt. Salut à tous les deux.
Salut.
Allô.
Et je fais ce qu'il ne faut surtout pas faire dans toutes les intros de podcast, à savoir désigner deux personnes en même temps, en attendant que l'une se désigne, parce qu'évidemment on est beaucoup trop poli et on se refuse à chaque fois à prendre la parole le premier et à se couper la parole. Alors je reprends mes habitudes et je te souhaite la bienvenue Matt, comment vas-tu ?
Ça va bien, on redémarre une xème saison, j'ai même pas vérifié à la combientième, parce que tu sais, quand on aime, on ne compte pas, Guillaume.
Effectivement, ça fait trop d'années, au-delà d'un certain nombre d'années, on les compte plus, on en profite, et salut à toi Julien.
Salut à toi, salut à vous,
très heureux. Est-ce que t'es en pleine forme ?
Oui, je suis en pleine forme, je viens de déménager, comme on en parlait avec Matt avant, en off, mon environnement s'est ouvert, maintenant j'ai des baies vitrées, des balcons, c'est incroyable, et je sens déjà, on va parler un peu de créativité aujourd'hui, je sens ma créativité déjà qui revient.
Ah, c'est bon ça, ça va être un lien avec ce qu'on va aborder. Et je vois que tu as gardé tes guitares électriques en arrière-plan. Donc ça, c'est un point de repère qui nous va bien. On aime bien le confort et les repères visuels. Effectivement, tu l'as dit, Julien, on va vous parler de culture, de créativité. Je reprends les différents éléments du titre de cet épisode, à savoir art, écriture, musique, comment nourrir la créativité. C'est la promesse de cet épisode. Et pourquoi est-ce qu'on a une promesse aussi claire et aussi bien définie dans cet épisode ? On doit vous donner un petit peu les coulisses. Alors, je me rendais compte qu'on n'avait pas enregistré depuis le mois de mai 2023. Nous sommes en septembre 2023. Il fait des records de chaleur et je pense qu'il faudra s'habituer à avoir des records de chaleur. Désormais, tant pis. On s'est organisé un petit peu comme l'a fait d'ailleurs Niptech. Hein. Les copains de Niptech, ils ont repris la rentrée et ils ont fait une petite université d'été. Ben, finalement, on a fait pareil. Alors, on l'a fait à la sauce Real Life, hein, un peu rapide, un peu efficace aussi. Et on n'y a pas consacré une journée. Mais on a quand même choisi de retenir certains axes directeurs pour cette nouvelle année, à savoir se fixer des thèmes bien à l'avance. On a toute une série de super beaux thèmes qu'on va aborder avec vous pendant cette saison. Et le premier épisode de cette nouvelle saison, c'est culture et créativité. On avait besoin quand même, hein, je pense, Julien, Matt, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut rebondir sur cette organisation de Real Life.
Oui, on a décidé de quand on a débriefé un peu la saison d'avant, on était tous d'accord. On disait les choses de façon différente, mais on avait tous exactement les mêmes points. C'était assez cool de s'en rendre compte aussi. Et du coup, on va essayer d'avoir une approche qui est un peu plus holistique. Il y a un principe fondamental en leadership et en gestion de groupe et d'équipe, c'est de se dire que dans une équipe de trois, on cherche à avoir 1+1+1 supérieur à 3, ce qui est pas mathématiquement correct, mais on veut créer de la valeur ensemble. Et on avait tendance à peut-être faire un peu du patchwork avec nos sujets, à arriver un petit peu comme ça. Donc là, on va essayer, en connaissant les sujets à l'avance, de les travailler un peu plus en amont, un peu plus ensemble, et faire des choses un peu plus cohérentes.
J'espère que vous allez le percevoir et vous nous ferez évidemment vos retours, puisque vous savez comment vous pouvez nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux et évidemment sur Patreon. Vous pouvez nous soutenir, Real Life étant un podcast gratuit, vous pouvez néanmoins nous soutenir financièrement sur patreon.com/reallife, et vous aurez des canaux d'échange privilégiés, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Matt, est-ce que tu as une remarque sur cette nouvelle organisation et surtout des éléments d'actu à nous partager ?
Je suis très content qu'on tourne autour d'un thème, qu'on essaie de le complémenter avec nos forces, nos intérêts, tous et chacun. Je suis très impatient d'avoir les nouvelles versions des iOS et macOS pour nous aider à mieux nous organiser, parce que cuisine interne, ça fait deux ans que je l'ai fait chier. Je suis irritable au niveau des outils qu'on utilise, et le bon fanboy Apple que je suis essaye d'envoyer tout Real Life dans Apple Notes, Apple Reminder, et la promesse, c'est avec les nouvelles fonctionnalités qui arrivent d'être encore mieux organisé. Alors c'est un peu ça, la cuisine interne. Et puis j'ai hâte de refaire des thèmes, puis de les fouiller, puis de les travailler plus. Alors c'est la promesse.
J'en profite, Matt, il y a un sujet que tu n'as pas abordé. Il faut quand même que tu nous en touches un petit mot, parce que moi, je me rappelle, il y avait une saisonnalité dans ReLive depuis maintenant de nombreuses années. Soit on tombait dans les périodes où il y avait de la neige, c'était dur la neige, hein, je me rappelle bien, où la neige fondait, et donc il y avait des torrents de flotte, c'était absolument monstrueux. Et très très vite s'enchaînait le petit plaisir dont tu nous faisais part, qui était de reprendre le guidon de ta moto, de t'envoler sur les routes et de profiter de cet engin. Et alors, tu m'as surpris, et alors vraiment, bravo à toi pour la cohérence dans le discours et dans les actes. Je ne sais pas si tu peux nous en toucher un mot, mais tu as vendu ta moto.
Oui, alors j'ai vendu ma moto. Ça n'a pas été un choix. Bon, tous les motards qui nous écoutent vont comprendre un peu le principe. La moto, c'est pas un choix logique, c'est un choix de cœur. Quand on fait de la moto, c'est pour un plaisir de conduire. On conduit pas. En fait, plaisir de conduire, c'est d'ailleurs le mot est très mauvais, parce que c'est un plaisir de piloter. On conduit un véhicule, on pilote une moto, et puis il y a un sacré plaisir qui est à travers ça. Et après 2 ans de réflexion, j'ai décidé de la vendre pour un souci de cohérence sur beaucoup d'aspects. Je dis à mes enfants qu'il faut aller de plus en plus dans les transports en commun, qu'il faut de plus en plus faire attention à nos déplacements et d'éviter de prendre des véhicules thermiques ou de prendre des véhicules tout court et d'y aller. Alors, ça a été une des motivations, en plus du fameux calcul ratio, plaisir, temps d'utilisation et coût, qui n'était pas là du tout. Alors, pas forcément à cause de la saison, de la pluie et de l'hiver, c'est aussi parce que, quand on est papa, quand on est entrepreneur, quand on est à contrat, on n'a pas nécessairement toujours le temps disponible. Alors, pour toutes ces bonnes raisons et soucis de cohérence, j'espère, et retenez-moi d'ici le mois de janvier, février, de pas racheter une nouvelle moto, mais en tout cas, je vais essayer d'être cohérent le plus possible avec ça. Et puis, c'est pour la petite histoire, je vous l'ai peut-être pas dit au mois de mai, mais on a passé les vacances à faire du transport en commun avec les enfants. Le voyage, déplacement, tout devait se faire en transport en commun, et ils ont surkiffé, parce qu'on a fait un voyage qu'on n'aurait pas pu se permettre en véhicule. Tous ceux qui habitent dans des grandes villes, vous le savez, c'est un peu pénible, les véhicules. Et quand on se promène en transport en commun, quand il est bien adapté comme il est chez nous, comme aussi probablement en Europe, on peut faire beaucoup plus de choses sans se tracasser du véhicule, de stationner, de le remplir, de « attention, il n'y a pas de place de stationnement, je veux aller là, oui, mais ça va être trop long d'y aller parce qu'il y a trop de trafic. » On n'a plus ces soucis-là. Alors, tout ça, toute cette grande boucle, pour vous dire, par souci de cohérence, la moto, c'est terminé.
Et bravo, parce que je pense que c'est très facile d'être en cohérence dans les discours, notamment concernant le réchauffement climatique et les implications personnelles, mais de mettre en place des actes très concrets qui sont presque de l'ordre de sacrifice. Alors tenons-nous bien, effectivement, un sacrifice, se séparer d'une moto, pour beaucoup, c'est très accessoire, mais je pense que ça fait partie de ces plaisirs quand on en a la possibilité et quand on a l'habitude et l'envie, qui peuvent être des vrais challenges. Et bravo à toi, bravo dans la cohérence en tout cas. Je termine juste pour un petit mot, parce que je voulais vous partager la fierté que j'ai d'arriver à tenir maintenant une organisation par semaine, et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Je l'ai fait par petites périodes, mais je me rends compte maintenant que ça fait un bon moment que je réussis à tenir mon bilan hebdomadaire. Et je pense que je le dois à une personne, et je le dois à un podcast qui s'appelle Valkan. Alors, il nous écoute en plus, et il parle régulièrement de nous dans son propre podcast qui s'appelle La Semaine de Valkan. Justement, ça porte bien son nom. Et le principe de son blog audio, de son podcast, c'est de faire la récitation de ce qu'il a fait de cette semaine. Et à chaque fois, comme je cours chaque dimanche soir, j'écoute son épisode qui est sorti quelques minutes ou quelques heures avant, pendant que je fais ma petite course. Et vous pouvez pas savoir à quel point je trouve ça bluffant, la qualité qu'il a de noter les éléments qu'il fait de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il note pas de manière compulsive ce qu'il fait, il note les choses qui sont marquantes, et il s'est mis en place cette discipline qu'il partage, que je trouve remarquable et très inspirante, et j'ai voulu m'en inspirer, j'ai voulu me mettre à la hauteur de Valkan, et j'y arrive. Alors je le partage pas au travers d'un blog ou d'un podcast, mais j'ai mes petites notes qui sont complétées, et je prends un plaisir assez dingue à le faire, et je trouve que ça me sert en plus au-delà de ça, parce que j'en tire des conclusions et des actes concrets pour la semaine suivante. Donc, si jamais vous aviez envie de prendre une bonne résolution résolution, peut-être que ça vaut le coup de vous faire votre petit bilan hebdo comme le fait Valkan, et puis libre à vous de le partager en blog, en podcast, en vidéo. Je suis sûr que ça en intéressera d'autres ou que ça en motivera d'autres. Et puis voilà, je reviendrai sur la domotique, mais je remets les mains dans le cambouis de mon assistant et ça me fait très plaisir. Plus à faire que dans les résultats, mais ça me fait très plaisir. Allez, on enchaîne sur la créativité. C'est intéressant parce qu'évidemment, quand on fait un podcast, je pense qu'on est assez naturellement exposé au fait d'être créatif. En plus, vous avez aussi d'autres activités, chacun de votre côté, qui touchent quelque part à la création de contenu et pour moi à la créativité. Julien, tu as commencé en tout cas à travailler de ton côté sur quelque part pourquoi est-ce qu'il était important de développer un sens autour de la culture et de la créativité quand on veut s'améliorer, quand on veut faire preuve de développement personnel.
Oui, alors ça m'a demandé de me creuser un peu la soupière à cette histoire de créativité. Est-ce que je me considère vraiment pas comme quelqu'un de super créatif, que ce soit en maths quand j'étais au lycée ou dans les études supérieures ou dans la musique ou dans le développement informatique à l'époque où j'étais développeur. J'avais du mal quand même à sortir un peu des carcans et des briques que j'avais l'habitude d'assembler les unes aux autres. J'ai eu du mal à trouver des trucs vraiment qui me parlaient dans la créativité dans ce sujet-là, mais je me suis rendu compte que ma créativité dans les dernières années elle s'est améliorée dans le sens où j'ai appris à apprendre encore plus. Je me suis autorisé à me dire voilà les outils, ça je peux l'apprendre comme ça, comme ça. Par exemple, on en a sûrement parlé avant, mais apprendre par cœur, j'ai toujours persuadé que j'étais vraiment une banane pour apprendre par cœur. Et une fois que j'ai trouvé les bons outils, en particulier Anki pour faire des flashcards, des cartes de rappel et toute cette méthodologie autour qui est assez intéressante et qui est éprouvée scientifiquement, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais apprendre par cœur. Et de là, tu peux gratter des sujets de plus en plus, être dans l'apprentissage continu. Et en fait, plus tu peux rentrer en profondeur dans un sujet, plus ça, tu peux le découper en plein de petites briques et ensuite ça permet tout simplement d'aller faire des connexions entre ces différentes briques et les connecter d'une façon que peut-être personne ne les a jamais connectées. Et c'est là pour moi la créativité, si je devais donner ma définition, c'est ça, c'est connecter des choses qui ont a priori rien à faire ensemble pour aller créer quelque chose d'autre, un autre concept. Donc pour moi, c'est faire des ponts entre les idées, créer des nouvelles connexions neuronales, et c'est hyper important. Ça permet d'évoluer avec son environnement, voilà. Donc l'apprentissage continue, comprendre des sujets.
Et est-ce que tu estimes que tu arrives à être plus créatif maintenant?
J'ai l'impression à un certain point, on parlait de création de podcast, c'est typiquement se mettre dans la situation où on n'a pas le choix d'être créatif. Voilà, on arrive sur une page blanche, on se gratte un petit peu la tête, on en parlera un peu plus loin dans les livres, etc. Mais il y a des j'ai découvert en tout cas des méthodes qui permettent d'y aller je crois que dans notre dernier épisode en mai justement, on parlait de brainstorming et du fait que il y a l'image du tuyau d'arrosage que j'adore et que je réutilise beaucoup maintenant. On disait que Matt, il me semble bien, disait l'image du tuyau d'arrosage, au début l'eau elle sent un peu le plastique, elle est un peu pourrie, mais il faut quand même la sortir, quoi. Il y a pas le choix pour ensuite pouvoir avoir de l'eau claire. Et voilà, je me rends compte que avant je bloquais, j'avais la feuille blanche, je me disais pas non, c'est juste pas pour moi, je suis pas capable. Et maintenant voilà, on y va, on balance des idées et puis on finit par avoir quelque chose qui devient par essence créatif, parce que c'est créé, juste ça vient de différents trucs qu'on a dans notre tête et qu'on a pris le temps d'essayer d'assembler un peu comme des Lego. Parfois ça marche pas et puis au bout d'un moment ça clique et ça marche et on a tout le puzzle, quoi.
Bon, on va vous dérouler dans cet épisode plein d'outils, des ressources, des inspirations qu'on peut avoir pour tenter de vous faire développer votre créativité. Matt, de ton côté, est-ce que tu t'estimes créatif? Est-ce que tu t'es amélioré? Est-ce que tu es plus créatif maintenant qu'avant? Qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet à chaud?
On a tendance, et peut-être quand vous entendez le sujet créativité, et surtout qu'on l'a associé avec art et culture, on a tout le temps, en tout cas, rapidement, quand on dit créativité, on pense tout de suite à un peintre en face d'un tableau avec un pinceau. Et c'est pas forcément ça, la créativité, comme tu le disais, Julien, là, c'est dans les définitions, là, c'est vraiment l'acte d'assembler des éléments ensemble pour en faire une nouvelle chose. Et c'est pas forcément, nécessairement, de créer à partir de rien. Alors, c'est là le principe. Puis, c'est vraiment réellement un processus. Puis, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans ma partie de dossier de livre que je vais ramener. Mais il y a plein d'éléments pour vous aider à vous stimuler dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là de créativité. Et je pense que ton déménagement va t'aider, Julien. Tu vas le voir dans mon dossier.
c'est marrant, je me sens de mon côté, vous voyez, pour terminer un petit peu ce parcours de point de vue au début de dossier en termes de créativité, extrêmement peu créatif. Moi, je me rends compte, alors peut-être qu'on a des définitions aussi différentes les uns des autres, mais on me définit souvent comme quelqu'un de créatif parce que je produis beaucoup de choses qui sont visibles. Enfin, tu vois, je pense notamment à Tech Café qui sort régulièrement, évidemment grâce à Guillaume Poggiaspala. Quand on dit qu'on fait plusieurs podcasts, bon, qu'on fait d'autres contenus qu'on produit sur d'autres canaux, on trouve créatif. Mais finalement, moi, je me trouve pas forcément créatif. Je me trouve peut-être productif par certains aspects, mais pas forcément créatif. Il va falloir que je commence à associer ce que j'ai accumulé pour faire des nouvelles choses et développer ma créativité. On va tenter de faire ça ensemble. Tu as réfléchi aussi, Julien, de ton côté, assez rapidement aux outils technologiques qu'on pourrait mettre en avant auprès de nos auditeurs.
Oui, alors quelque chose qui est très actuel pour moi. On parlait de créativité. Et que j'étais un peu bloqué dans ma créativité récemment dans ma vie en général, mais du coup le travail étant une grosse partie de la vie, ça affectait un peu mon travail dans le sens où j'avais du mal à voir, je voyais plus vraiment de progression personnelle, je faisais toujours les mêmes choses et ça allait, mais d'habitude j'essaie toujours quand même de continuer à grandir. Et du coup, j'ai décidé d'essayer de me socialiser un petit peu plus au sens professionnel. Donc, ça fait déjà pas mal de temps que j'essaie de faire un meet-up par semaine à Lisbonne. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de meet-up, mais il y en a assez pour parfois se retrouver dans des trucs où on se dit pourquoi je suis là. je pense notamment à du biohacking et des choses comme ça où, fallait trouver un meet-up. J'en ai trouvé un. Mais du coup, en termes d'outils technologiques, j'ai commencé à rejoindre des communautés Slack. C'est quelque chose que je faisais à l'époque où j'avais ma boîte, on y avait plein de petites communautés Slack un peu partout, mais en fait je me rendais compte que j'avais juste beaucoup trop de messages à suivre et c'est pas très intéressant. En tout cas, j'arrivais pas à en tirer quelque chose d'intéressant. Et là, j'ai décidé quand même de me challenger et d'y retourner un petit peu. Et j'ai trouvé des nouvelles communautés de gens qui font un peu le même travail que moi, qui sont dans la tech, qui ont des boulots de management ou de leadership. Et c'est assez intéressant, ça m'a permis justement d'aller voir un peu comment les gens font, me dire ce problème je l'ai aussi, donc j'ai déjà une solution, donc c'est pas grave, mais non, voir un peu la solution que les gens ont mis en place pour un même problème et se rendre compte un petit peu de comment, est-ce que ça vient de la culture de l'entreprise, est-ce que ça vient de leur culture à eux, où est-ce qu'ils habitent ces gens-là, est-ce qu'ils habitent aux États-Unis, est-ce qu'ils habitent en Asie, et essayer de comprendre un petit peu tout ça, se socialiser en général, Slack, Discord et toutes ces communautés-là, je trouve, c'est un très bon outil.
Ah, effectivement, c'est rigolo d'ailleurs de se dire que comme outil technologique numéro un qu'on recommande pour de la créativité, c'est un outil qui permet de sociabiliser et de retrouver de l'humain. C'est quand même assez rigolo par certains aspects. Effectivement, et puis on a la possibilité aussi de recouper les infos. Alors c'est assez intéressant parce que tu parles de créativité comme étant le fait d'associer des concepts différents pour en faire émerger des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des nouvelles propositions. Et je crois que c'est la signature phare d'un logiciel dont on parle en trame de fond. Mais moi je reconnais que j'essaie de me l'approprier, mais j'ai pas réussi. Je pense que c'est pas la bonne période, c'est pas le bon moment, il faut pas que je fasse du forcing non plus. C'est Obsidian qui est souvent présenté comme étant un outil de prise de notes et de capture d'informations, de structure, de données entrantes quelque part, et qui a cette vertu de pouvoir justement te mettre en avant des associations d'idées sur ce que tu as rempli. C'est ça, Julien?
Oui, alors j'ai proposé Obsidian parce que il y a beaucoup de gens qui m'en parlent au boulot, comme ici, je suis un petit peu le gars qui utilise Notion H24, donc y a plein de gens qui me disent « Ah, mais regarde Obsidian, c'est comme Notion, mais en mieux. » J'ai toujours pas vraiment compris le rapport entre les deux. C'est pas... pour moi, c'est pas exactement la même chose. Mais bref, du coup, j'ai quand même essayé Obsidian pour pas être idiot. Et, ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est puissant. Ça rejoint c'est une solution à des trucs que j'ai essayé de mettre en place à une époque où j'étais assez fasciné par la méthode du Zettelkasten. Qui est en gros l'idée que, tu vas essayer de vraiment créer des notes, mais à chaque fois que tu crées une note, tu dois la relier automatiquement à une autre note, au moins une autre note. Et ça te force comme ça à faire des ponts entre les idées. Parce que parfois, tu vas juste prendre une note, je sais pas, un tutoriel pour comment régler je sais pas quoi sur mon serveur ou sur mon NAS, et tu dis, bah, à quoi est-ce que je peux le relier ça ? Et du coup, tu regardes dans tes notes, ça permet déjà de se rafraîchir un peu sur où t'en es de tes notes, et puis peut-être que tu vas lier, faire un lien un peu bizarre entre deux trucs, mais ça commence à créer quelque chose, et parfois, il y a des aha moments où tu te dis, ah, mais c'est incroyable ça, et du coup, tu continues à gratter. Donc, j'ai l'impression qu'Obsidian, ça permet de, c'est vraiment un outil pour faire ça, quoi. Il y a vraiment, c'est visuel, on peut voir la carte, l'espèce de graphe de toutes les notes qu'on a connectées les unes aux autres, et c'est assez intéressant. Alors, je l'utilise pas au quotidien. J'utilise plutôt les mind maps et d'autres choses comme ça, parce que j'ai pas besoin de me créer comme ça une toile de connaissances. Mais la prochaine fois que je dois le faire, parce que j'écris un livre, parce que j'apprends une nouvelle discipline ou une certification ou quoi que ce soit, je vais peut-être essayer de me l'approprier.
J'ai l'impression que l'enseignement qui vise à dire qu'il faut utiliser, par exemple, des outils comme Notion au début sur une idée, en tout cas un thème, une orientation spécifique, c'est probablement aussi le cas sur Obsidian. Là aussi, je le cite à nouveau, c'est Valkan, il en parle assez régulièrement. J'aimerais beaucoup qu'on fasse peut-être un atelier découverte Obsidian, juste avec les patriotes, tu vois, en vidéo. Je trouverais ça trop cool si jamais on pouvait organiser ça avec Valkan. On va peut-être voir si c'est quelque chose qui l'intéresserait. Matt, de ton côté, là aussi, t'es dans l'association visuelle des idées, mais tu voudrais nous parler un petit peu de la création du mind map, des cartes mentales, qui sont vraiment effectivement un outil qui est sous-utilisé, je pense, dans le quotidien.
Ouais, tout à fait. Moi, dans mon cas, c'est vraiment la page blanche qui est facilitante. La page blanche sans contrainte. Tu sais, typiquement, Obsidian, Notion, ils partent avec un frame qui est, dans mon cas, limitant quand on fait des on réfléchit à des architectures, qu'on réfléchit à des nouveaux systèmes, qu'on réfléchit à des nouveaux concepts. Et puis moi, j'aime bien tous ces outils là et je te dirais que j'aime de plus en plus, alors au bureau, quand on est en virtuel, tableau blanc de Microsoft qui est cool, parce qu'en plus de ça, il arrive avec toutes sortes de gabarits pour aider à structurer des Kaizen, des choses comme ça qui sont vraiment super intéressants. Et puis, bon Dieu, que le tableau blanc, tu sais, vraiment physique, quand on est au bureau, il y a pas mieux. Il y a honnêtement pas mieux, je trouve, dans mon domaine à moi. Alors ça, c'est vraiment cool. Un truc que j'utilise de plus en plus pour m'aider à créer, et tu vas rire, mais c'est de partir d'une idée, de poser une question à ChatGPT, et il me fait un gabarit, un frame, et après, je peux créer autour, et je me rends compte que c'est à la fois maintenant mon outil pour m'aider à créer du contenu, mais c'est aussi mon outil pour m'aider à me faire réfléchir à des choses que je pourrais oublier quand j'adopte un dossier. Fait qu'au niveau, quand j'approche un dossier, alors au niveau de mes outils, j'aime bien avoir une grande, moi je remarque, d'avoir une grande page blanche pour créer. Je sais que des fois, il y en a beaucoup qui sont freinés par ça, qui aiment un certain cadre. Mais moi, c'est vraiment ces outils-là qui m'aident dans ma création.
Ouais, je pense que c'est important de noter aussi la vertu qu'ont les modèles de langage, les interfaces de type ChatGPT, parce qu'effectivement, je pense que c'est l'excuse de moins qu'on a de la page blanche quand on vit en 2023. C'est-à-dire que quand tu te dis, ouais, je sais pas par où commencer. Et déjà, si tu peux commencer par demander à ChatGPT ou à un outil équivalent, et forcément, ça aide à embrayer vers l'étape suivante. Donc, c'est intéressant de le noter. Moi, je voulais juste souligner des outils auxquels on ne pense pas forcément assez. Je pense à peut-être toutes les personnes qui nous écoutent pour les premières fois, bienvenue à elles forcément, mais aussi aux personnes qui n'osent pas se frotter à des applications un peu conséquentes, à des logiciels qui nécessitent un temps d'adaptation comme tu le décris, Matt, sur certains outils. Il y a encore énormément de personnes de mon entourage à qui je fais découvrir Google Keep. Alors bon, d'ailleurs, schématiquement dans mon esprit, c'est cité sur iOS, utilise Apple Notes parce que franchement, ça va te permettre de capturer tes idées, même si j'ai l'impression que généralement, les gens l'utilisent déjà au moins pour des brouillons et des petites idées qu'ils veulent pas oublier, mais les gens sous-estiment la force aussi de Google Keep, notamment s'ils sont sur Android. Évidemment, c'est extrêmement bien intégré à l'écosystème Google. Et je pense qu'on ne prend pas assez l'effort au début, quand on veut gagner en créativité, de capturer de l'information toute la journée. Alors évidemment, c'est la rubrique outils technologiques, donc je ne parle pas du carnet, qui pourrait être une option pour beaucoup. Mais ceci étant, si vous n'avez pas envie de vous frotter aux contraintes d'avoir un carnet papier, avec la saisie, avec ce que ça impose en termes de mobilité notamment, les applications classiques de type Notes et Google Keep sont gratuites et extrêmement puissantes. Qu'est-ce que tu nous montres, Matt ?
Alors, je vous montre à l'écran. Alors, ceux qui sont en audio, je vais vous le décrire. J'ai acheté dernièrement la Amazon Scribe, Kindle Scribe, qui permet justement de prendre des notes. Alors, Julien, toi, t'étais sur ton iPad. J'avais vraiment de la difficulté à travailler avec l'iPad. Là, j'essaye le Scribe, qui est aussi intéressant pour prendre des notes et qui permet aussitôt d'avoir dans ton navigateur tous tes carnets de notes synchronisés, ce qui est pas mal cool aussi. Mais oui.
Tu retrouves ton environnement Apple chéri ou pas?
Oui, je retrouve. Je prends mes notes et puis je les envoie directement dans Apple Notes.
Très bien, très bien. Eh ben magnifique. On a aussi quelque chose de référence qui est à notre portée et qu'il faut absolument citer quand on veut développer sa créativité. On en est un peu sur les fondamentaux sur ce premier épisode de rentrée, j'ai l'impression, Julien et Matt, ça fait plaisir. Julien, tu voulais nous citer ce formidable outil qui est Audible.
Oui, Audible que personnellement j'utilise un peu voilà en on and off, à défaut de trouver une version en français de le dire, en dilettante, mais c'est vraiment top. Quand j'arrive un peu à la fin, c'est toujours en été en général, la plupart des podcasts font un petit peu une pause, et du coup moi qui continue à courir beaucoup, oui, surtout en été en général, je me retrouve et j'ai besoin de plus de nourriture. et du coup j'ai plus de podcasts, donc je me tourne vers Audible, je reprends quelques crédits et je repars. Et puis ensuite, une fois que j'ai accumulé plein de bouquins que j'écouterai probablement jamais et que tous les podcasts sont repris, j'arrête. Mais du coup il y a les Great Courses, parce que dans Niptech ils en parlent tout le temps. Ah oui. Et vraiment allez jeter un coup d'œil, il y a de tout et de rien. Vraiment ça va de l'Empire ottoman à comprendre l'investissement ou la thérapie cognitive, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment de tout et de rien. Et parfois, si vous avez du temps et que vous êtes un peu curieux, juste allez-y et peut-être que ça va connecter avec quelque chose d'autre, de complètement différent que vous avez dans votre vie et que vous allez pouvoir actionner. Voilà, c'est toujours une question de juste aller s'ouvrir à de plus en plus de choses, être toujours plus curieux, même si comme ça, au premier abord, ça n'a aucun rapport avec le reste de vos connaissances. Peut-être que vous allez créer un pont et c'est toujours un pont de prix.
Mais
c'est tellement vrai ce que tu dis. On a tendance à s'enfermer dans des sujets, des thèmes et des fois on devrait se faire surprendre par des thèmes pour pouvoir découvrir des nouvelles perspectives. Et ça, tu vois, c'est compliqué. Si vous avez des trucs, dites-le moi, mais c'est compliqué pour moi de sortir dans mes thèmes habituels puis de me laisser surprendre. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, j'utilise plus les algorithmes de recommandation des applications pour essayer de me faire surprendre. Mais encore là, il m'enferme quand même dans une bulle. Alors, si vous avez des trucs, aidez-moi.
Ben, c'est pour ça, je trouve, que la première recommandation de Julien, qui est de se forcer à s'ouvrir à une forme de sociabilisation au travers des outils qu'on a à dispo, et les meet-up plus en personne, hein, donc ces rendez-vous physiques qui peuvent être organisés à proximité de chez vous, ils sont très intéressants. Et moi qui suis un grand timide et un grand introverti, j'ai énormément de difficultés à aller me mettre en danger et à confronter ma zone de confort à la réalité des autres, mais je pense que vraiment ça me paraît une étape intéressante. Et c'est c'est peut-être la recommandation dans la recommandation qu'il y a derrière Audible, c'est qu'Audible est une fenêtre incroyable vers des styles différents, des ressources d'information différentes au-delà des podcasts et évidemment autant de possibilités de créer de la valeur, quoi. Moi, je voudrais terminer avec deux outils, là encore, peut-être un peu bateaux auxquels on ne pense pas assez. Alors, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais je trouve qu'on sous-utilise à mort l'appareil photo de nos smartphones. Combien de fois est-ce qu'on se retrouve à marcher dans la rue? Est-ce qu'on se retrouve à consulter des trucs dans son environnement de travail, chez soi, etc. Que ce soit des idées de choses qu'on aimerait développer, des choses qui nous inspirent, des choses qui pourraient faire écho. Toutes les pubs qu'on peut croiser au quotidien dans la rue, ça peut être intéressant de les voir autrement que comme des expositions commerciales, mais aussi comme des éléments de créativité. Bref, prenez peut-être le réflexe de prendre plus de photos autour de vous. On a tendance à vouloir faire des belles photos. Et si on achète un smartphone souvent onéreux, c'est parce qu'il fait des belles photos. Mais finalement, on a aussi plein de possibilités avec un smartphone d'aller au-delà de faire des belles photos, mais aussi de capturer tout ce qui nous entoure et peut-être de se mettre en confrontation avec notre quotidien pour aller créer des choses. Et dans la continuité, sur cet aspect, encore une fois, visuel, je trouve qu'un outil qu'on sous-utilise énormément, en tout cas, enfin, je fais des généralités, que je sous-utilise énormément et qui pourtant à chaque fois porte ses fruits, c'est Pinterest, qui est d'une puissance sur la collection d'informations visuelles associées à des thématiques textuelles. Et quand vous êtes sur des thématiques culturelles, sur des environnements différents, j'en sais rien, de la science-fiction, des arts, encore une fois, tous ces éléments, vous allez les retrouver de manière extrêmement complète sur Pinterest et surtout très organique. Les infos sont pas figées, c'est pas une collection qui est fermée parce que par essence c'est un réseau social et donc vous allez tout à la fois pouvoir développer votre connaissance sur un thème donné mais aussi le confronter à la manière dont d'autres personnes ont commencé à collecter l'information sur ce thème donné. Donc voilà, un outil tout bête que vous connaissez peut-être et qu'on n'utilise pas assez, c'est Pinterest et c'est pas que pour voir à quoi pourrait ressembler la déco de votre future maison, c'est aussi pour beaucoup d'autres autre chose finalement.
J'étais en train de voir mon Pinterest, ça fait plusieurs années que j'ai pas été, alors merci à toi parce que ça me permet de me reconnecter à ça.
Ah non, mais c'est un outil incroyable. Franchement, quand tu réfléchis à des pochettes de podcasts, quand tu réfléchis à des nouveaux trucs à développer, je trouve que visuellement, il y a une exposition du truc qui est géniale. Intermédiaire, les outils pas trop technologiques, je voulais compléter pour celles et ceux qui aiment bien les podcasts, mais qui sont pas forcément aficionados d'outils technologiques. Il faut quand même citer le carnet, je le disais tout à l'heure. Est-ce que pour développer sa créativité, le fait d'avoir un carnet, un beau carnet que vous aimez bien, qui au début est tout beau, comme les carnets à la rentrée scolaire, et qui petit à petit se fane avec le temps évidemment, mais que vous allez pouvoir emporter avec vous, qui va pas avoir besoin de batterie, qui va pas avoir besoin de caractéristiques incroyables pour capturer les photos comme je le disais juste avant, mais où vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez. Tu parlais tout à l'heure, Matt, du tableau blanc. Quoi de plus trivial et de plus accessible que le carnet papier comme tableau blanc mobile? Et je pense là aussi qu'on le sous-utilise. Moi de mon côté, je suis vraiment trop dépendant des outils technologiques, pas dans le sens affectif, mais dans le sens où ça m'embête vraiment de devoir dépendre d'un objet physique. J'ai un badge pour mon travail, le simple fait de le perdre m'angoisse et m'énerve au plus haut point. Mais voilà, je pense que vous pouvez être nombreuses et nombreux à développer votre créativité simplement en achetant un petit carnet et un stylo. Et puis, peut-être dans la continuité, là aussi, c'est pas très technologique, mais ça va toucher au contraire les personnes qui sont très immergées dans une vie technologique et je me mets directement dedans. Je sais pas vous, Julien et Matt, mais il est extrêmement rare que je n'ai pas quelque chose à écouter ou à lire. Et en fait, je ne mets jamais vraiment mon cerveau au repos et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il soit très très efficace, mais j'en suis venu au point, tenez-vous bien, que j'écoute des podcasts sous la douche. Alors bon, c'est un peu compliqué parce qu'il faut arriver à se faire son shampoing sans inonder ses AirPods. Mais bon, il y a une astuce. Hein, vous faites d'abord votre shampoing rapide et puis ensuite vous mettez vos AirPods, vous prenez le réseau de douche. C'est ridicule. Voilà, je le reconnais. Je vous livre une partie de ma vie pour laquelle je ne suis pas fier. Et justement, j'ai commencé à me rendre compte qu'au contraire, quand j'arrivais à me couper de toutes ces informations, émissions de radio, vidéos, informations qu'on a au boulot, le mail, les notifs, etc., ben qu'est-ce qu'on est bon, quoi ? Qu'est-ce qu'on est bon ? Et je me suis rendu compte que mes douches sont extrêmement plus fructueuses quand je ne mets ni radio, ni podcast, ni rien. Alors j'en suis encore à avoir besoin de la lumière. Peut-être que demain, je prendrai mes douches dans le noir pour vraiment faire preuve de créativité. Mais voilà, je voulais aussi le rappeler parce que ça peut être des petites astuces auxquelles il faut penser quand on veut se tourner vers la créativité.
Et pour, oui, aller, pour aller plus loin que la douche, on m'a donné un très bon conseil l'année dernière, c'était de pas prendre son téléphone pour aller aux toilettes.
Ah oui, mais tellement, ouais. Bien sûr.
Et ça, moi qui travaille en plus de chez moi, c'est très rapide. Tu vois, t'as toujours tout. J'ai même des haut-parleurs dans la salle de bain. Mais juste, t'es au travail entre deux réunions. Et ben plutôt que de se sortir de la zone et aller sur Instagram, juste. Parfois ça peut être pour réfléchir à n'importe quoi, parfois ça peut être juste pour briefer la prochaine réunion ou quoi que ce soit, mais c'est tellement plus productif. Donc je suis pas encore parfait à ce niveau-là, mais à chaque fois quand j'y pense, je me dis OK, fais un effort conscient et c'est toujours très bien, c'est toujours fructueux.
On fait notre autocritique, hein, vous avez compris, avec cet épisode, on se fait notre petite introspection personnelle, c'est très bien. Qui dit sujet d'Enray Live dit ouvrage de référence. Matt, c'est toi qui t'es livré à l'exercice de t'immerger pleinement dans un ouvrage que tu voudrais rattacher à cette démarche de créativité.
Oui, un livre qui j'en ai déjà parlé, hein, mais ça fait toujours du bien de reprendre les fondamentaux. Richard Wiseman, spécialiste, je sais pas son background, il faudrait que j'aille vérifier là, exactement. Ça me vient pas à mémoire tout de suite. A écrit plusieurs livres, dont un qui reprend indirectement, ça va te plaire, Guillaume, tous les biais qu'on peut avoir en tant qu'humain. De ça, il y a une section dans son livre, 50 secondes pour prendre les bonnes décisions, qui est spécifiquement fait pour la créativité. Et il y a des sections que je vais reprendre, je vais relire, je les ai retravaillées, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Comme tu en as parlé au début, Julien, le brainstorming. Et le brainstorming, dans le livre de Wiseman, serait un grand mythe et une grande légende, car ça vient des débuts des années 80 où on suggérait que plus tu mets de gens ensemble, plus tu vas avoir de créativité. Et c'était sans savoir que l'humain est paresseux, parce que plus tu mets de gens ensemble à faire un travail, à faire un effort, moins ils le font. Typiquement, il y a des études qui relatent ça. Et plusieurs psychologues étaient vraiment pas convaincus de cette histoire-là. Ils ont commencé à analyser est-ce que les gens sont vraiment plus créatifs, et de nombreux travaux là, ça pensait que pendant plus de 70 ans, les adeptes du brainstorming ont finalement étouffé la créativité au lieu de la stimuler. Le travail collectif est démotivant. On y investit moins de temps, moins d'énergie nécessaire à la conception d'une idée nouvelle, et on finit par tourner en rond. C'est ce que toutes les études dans le livre de Wiseman corroborent. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut arrêter de faire des brainstorming? Peut-être pas, mais peut-être s'y préparer plus en amont, c'est-à-dire de demander aux gens de préparer des carnets, des thèmes, aussi de calmer le jeu dans des rencontres où vous avez du brainstorming, c'est-à-dire qu'il y a toujours le grand savant comme moi qui parle plus fort que tout le monde et qui parle plus et qui dit pas forcément des choses intéressantes. Alors, le brainstorming, ça prend, et c'est pas en laissant tous les gens autour de la table et en disant « C'est bon, allez-y, créez-moi quelque chose de révolutionnaire » que ça va porter fruit. Alors, ça vient de plusieurs études qui avaient été faites. Une qui était mémorable, où ils mettaient des gens ensemble pour tirer une corde, et ils se rendaient compte que quand une personne est toute seule, elle tire plus fort que quand elle est regroupée. Et c'est exactement la même chose au niveau des idées et de la création. Alors, n'oubliez pas que le travail collectif peut être démotivant et qu'on y investit moins de temps et d'énergie habituellement que quand on est tout seul. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que des startups sont beaucoup plus rapides dans l'univers des technologies que des grosses entreprises, parce que y a moins de monde et on focalise plus sur certains trucs.
Non mais attends, c'est génial ce truc de la corde là, qui montre qu'on tire plus fort quand on est seul que quand... Mais attends, mais c'est une claque. C'est l'enseignement que je retiens. Moi, c'est incroyable cette histoire, géniale.
Ouais. Pour trouver de l'inspiration, peut-être que faut arrêter de la chercher. Salvador Dali avait recours à une petite méthode étrange. Il s'allongeait sur son canapé et tenait une cuillère sur une tasse à café. Et dès qu'il commençait à s'endormir, ou son subconscient, son inconscient commençait à prendre le relais, Et là, il lâchait la cuillère et bing, ça le réveillait et il notait tout de suite les idées qu'il avait eues pendant cette période de réflexion-là. Quand il commençait à s'endormir, sa main se détendait, se lâchait et la cuillère tombait au tintement de la cuillère. Il pouvait commencer à reprendre des ce qu'il avait eu comme rêve, on va dire, éveillé ou conscient ou inconscient. Plusieurs études suggèrent en effet que trouver des nouvelles façons de concevoir le monde, votre inconscient vous réserve toutes sortes de surprises et peut vous aider. Typiquement, quand on met deux hommes dans une même pièce, l'un très créatif et l'un plutôt timide, et ça rejoint le brainstorming, vous allez comprendre, le malin, moins créatif, mais plus dominant, va avoir tendance à parler. Et c'est pour ça que le brainstorming, ça a moins tendance à fonctionner. Vous leur demandez d'inventer un slogan publicitaire d'une nouvelle marque de chocolat, par exemple. Et naturellement, l'homme sûr de lui va être beaucoup plus créatif et monopoliser le temps de parole. Là encore, vous comprenez que faut calmer dans votre tête celui qui parle plus fort que celui qui parle moins fort. C'est un peu comme le brainstorming. Et il faut trouver des moyens de faire autre chose. Et comme tu disais, Julien, quand tu vas dans la chambre de bain, quand tu vas dans les toilettes, pour lâcher toute la technologie, peut-être que tu aides à faire venir l'inconscient en toi et te trouver des nouvelles façons de regarder la problématique ou l'enjeu que tu veux adresser. Il y a plusieurs études sur la créativité qui vantent les mérites de la relaxation. Alors, on vous en a parlé souvent. D'après elle, il faudrait se laisser aller, se vider son esprit de toute pensée. L'expérience des Hollandais qui ont enseigné exactement le contraire pendant des années, notre créativité surgit quand on détourne pendant quelques temps notre attention de façon à s'empêcher de parasiter les pensées novatrices qui germent dans notre inconscient. Pour développer notre créativité, faisons taire le bavard, ce que je vous disais précédemment, dans notre tête et laissons le timide pour qu'il ait une chance de s'exprimer.
Faut arriver à faire la méditation, quoi, tôt ou tard, c'est ça?
Ah ouais, peut-être. Peut-être que ça a pas juste du bon sur la santé, mais aussi sur la créativité. Juste avant, je vous disais, Julien, t'as changé d'appartement. Dans une série d'expériences, les psychologues japonais Seiji Shibata et Naoto Suzuki, ont soumis des volontaires à divers exercices de créatifs en les plaçant tantôt à côté de plantes vertes, tantôt à côté de portes de revue, tantôt à côté de murs en béton, tantôt à côté de plusieurs éléments. Et les résultats de ces expériences ont montré que quand on est dans un environnement naturel, on a tendance à être plus créatif. Des enquêtes sur les milieux professionnels ont été menées aussi. Et ils se rendent compte qu'on a simplement ajouté des plantes, tourné les bureaux vers la forêt, des arbres, et on va gagner en productivité, pas en productivité, en créativité. Et ça, c'est peut-être des fois plus important en 2023 d'être créatif que productif. Bref, il y a plusieurs éléments sur le décor qui sont très importants. Ce que disent ces études-là par rapport à la nature, c'est que certains traits de notre histoire d'humain reviendraient et qu'on serait beaucoup plus créatif dans la nature parce qu'on était dans la nature auparavant et on trouvait toutes sortes de moyens de se sortir de pièges que maintenant on n'a plus. Alors, quand on est devant un mur de béton, on serait moins créatif. Il y a plusieurs éléments, je vais peut-être pas tous les lire, mais les points importants du livre, en résumé, ce que j'ai appris dans le livre, c'est que la stimulation, stimuler votre cerveau en planchant sur un problème, puis relâcher votre attention, ça vous aide beaucoup. La perspective, changer de perspective, ça peut susciter des solutions nouvelles. Alors typiquement, essayer de mettre à la place d'une personne d'autre, d'une autre façon de voir peut vous aider. Établissez des analogies, ça aussi, ça peut vous aider à changer de perspective pour comprendre ou à adresser un problème de manière plus créative. Les jeux, trop de sérieux, le cerveau reste à l'étroit. Alors ça aussi, dans le livre, on se rend compte que le jeu, et ça doit te parler, Guillaume, ça peut stimuler votre créativité. Ça peut, en tout cas, aider beaucoup. trois autres éléments qui sont importants, la perception. Quand le monde qui nous entoure devient trop familier, notre cerveau se met sur le pilote automatique. D'aller tout simplement peut-être aller travailler une séance de travail dans un café, dans une bibliothèque, ça peut vous aider à avoir ou à approcher de manière différente un enjeu. La stimulation, pour stimuler votre potentiel de créativité, prenez quelques secondes pour décrire un musicien dans votre tête, quelqu'un d'artistique, et automatiquement, vous allez voir que vous allez être plus stimulé à être créatif. Ça, c'est des études qui ont été menées. On demandait à des gens, décris-moi un punk, à quoi ressemble le punk, et décris-moi un homme d'affaires, par exemple. Et les personnes qui décrivaient le punk, après ça, quand on leur demandait des travaux plus créatifs, étaient beaucoup plus créatifs que la personne qui avait décrit la personne, l'homme d'affaires. Et pourtant, les études confirmaient que c'était les mêmes sujets hein, qui faisaient ces études-là, et ils se rendaient compte que quand on se met dans une stimulation dans notre cerveau pour être créatif, automatiquement, on va peut-être plus relier notre cerveau à d'autres événements. Puis, en terminant, la gestuelle. La prochaine fois que vous aurez besoin de créativité dans une réunion de travail, bougez. Ça peut être de sauter, ça peut être tout simplement d'aller prendre une marche ou de se lever pour aller prendre un verre. Mais le cerveau, les neurones ont besoin de bouger et ont besoin de... c'est écrit. À ceux qui se rapprocheraient d'être paresseux, expliquez calmement que vous êtes en train de désactiver le locus coeruleus. Je suis désolé, je suis pas capable de le dire. Mais c'est un élément dans notre cerveau qui... lorsqu'on bouge, qui est stimulé et qui fait qu'on serait beaucoup plus créatif.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal de reglisser ça au bureau. Non, c'est pas ça. Je suis en train de désactiver mon locus coeruleus. Coeruleus. Oh, j'y arrive pas. Bon, bref, vous avez compris. Excellent, Matt. Ça confirme décidément ce Richard Wiseman et un monsieur qu'on aura régulièrement cité dans ReLife. Pour la petite anecdote, j'ai fait mon petit exercice d'aller savoir qui il était dans ses professions. En fait, il est psychologue, prestidigitateur et sceptique. Donc, c'est quelqu'un à mettre directement dans la lignée de James Randi ou de Houdini. Évidemment, des personnalités fortement inspirantes. Et vous savez que j'y suis... très sensible à ces personnalités-là. Julien, toi aussi, tu as des ouvrages de référence, au moins un à nous citer sur la créativité.
Oui, toujours le classique des classiques, le fameux Deep Work. Ouais. Si vous ne l'avez toujours pas lu, allez-y. Il parle notamment, ça me faisait penser à ça, Matt, il parle de Charles Darwin, qui, si je me rappelle bien, il avait une maison comme ça un peu au milieu de nulle part, il avait un parc juste devant chez lui, et du coup, tous les matins, le premier truc qu'il faisait, et en après-midi, enfin bref, à plusieurs moments de la journée, il allait marcher, il faisait exactement le même pas. On peut voir qu'il y a des pierres qui sont limées parce que c'est juste à un certain endroit, il mettait toujours le pied là. Et juste, il y avait un parc avec des fleurs, du vert, des arbres et tout. Et apparemment, c'était le truc où il allait juste sans rien. Et il faisait son tour dans le parc et il revenait, et ça lui permettait d'apparemment d'être un peu plus créatif et de penser à d'autres choses, juste faire une pause, quoi.
Tu sais qu'il faisait aussi beaucoup de choses en marchant, c'était Steve Jobs. Dans son livre, on voit qu'à chaque fois qu'il y avait des situations compliquées, des rencontres compliquées, il faisait en marchant. Alors, comme quoi, il y a un truc là.
Très intéressant.
Vas-y, Julien.
Bref, et dans Deep Work, il y avait toujours cette idée que la qualité du travail est équivalente au temps passé fois l'intensité de la concentration, qui pour moi a beaucoup de sens aussi, quoi. Si parfois on a l'impression qu'on est arrivé au bout de l'idée, mais c'est exactement à ce moment-là que la créativité va commencer à se débloquer. Une fois qu'on a réussi à sauter ce mur, et là on va ouvrir le champ des possibles, et en tout cas en général c'est ça. Enfin, je me rends compte de ça, quoi. C'est au moment où on pense qu'on est arrivé au bout, il faut juste pousser encore 5 minutes de plus, il va y avoir 5 minutes de gap, mais après on ouvre un petit peu la porte.
Ça va pas aider les perfectionnistes, ça, hein, ceux qui ont du mal à livrer leur sujet de manière imparfaite, ça va pas les aider. Trop bien. Merci Julien pour ces quelques références complémentaires. Vous avez de quoi bosser hein, si jamais vous voulez aller au-delà du podcast et développer vous-même la créativité. On va terminer avec des références de type documentaire ou autre podcast qu'on aurait pu voir. Et je vous avoue que ça m'aurait quand même pas mal vexé qu'on ne cite pas cette vidéo absolument incontournable de la rentrée. C'est toi Julien qui te prête à l'exercice de relayer la dernière formidable vidéo de David Louapre.
Oui, de la chaîne YouTube Science Étonnante. Il a fait une vidéo que j'ai mis pas mal de temps à regarder. Je l'ai regardée cet après-midi, pour tout vous dire, il y a vraiment juste quelques heures. Mmh. Et je pouvais pas ne pas l'inclure, évidemment. La vidéo s'intitule « Mieux apprendre et étudier ». Et il revient sur toutes les méthodes qui permettent de bien étudier. Il y a notamment les flashcards, la mind map, ouais. Etc., etc. Et c'est très intéressant. Et voilà, il dit voilà, rentrer chez soi, recopier tous ses cours sur des petites feuilles canson en plus petit avec de la couleur et tout abrévié. Abrévié, c'est pas une situation d'avenir et il y a des méthodes testées scientifiquement qu'on n'apprend pas à l'école mais qui ont des vraies vertus. Donc vraiment, allez-y, c'est même dans notre vie d'adulte. Si demain vous attaquez un nouveau sujet au travail, que votre boss vous demande de lire un bouquin pour que tout le monde ait la même culture et le même vocabulaire, probablement vous voudrez utiliser certaines de ces techniques pour aller vraiment plus loin dans la réflexion, et plus vous allez loin dans la réflexion, plus vous allez être créatif avec ce que vous avez appris plus tard.
Et je crois, Julien, une des meilleures manières d'apprendre, c'est de faire des fiches hein, pour recopier le cours, l'écrire en plus petit et surligner des passages. Hein, c'est ce qu'il dit, David, je crois.
C'est exactement ça.
C'est bon, j'ai juste là. Allez regarder la vidéo, parfait. Merci Julien et Matt pour vos préparations autour de la créativité. J'ai l'impression qu'on a été complet et on a le sentiment d'avoir vraiment abordé le sujet. Donc, vous nous direz en tout cas si vous, de votre côté, vous avez cette perception. Et puis surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous parce que vous savez à quel point l'interactivité est un élément essentiel des podcasts et à quel point ça va nous aider à savoir où mettre le curseur. Est-ce que vous aimez ces nouveaux formats de cette nouvelle saison de ReLife? Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Évidemment, faites-le nous savoir. Il y a une astuce assez simple d'ailleurs et qu'on aime bien. C'est un peu notre astuce coup de cœur. Vous allez sur le site relifepodcast.com et vous avez un bouton qui vous permet de laisser un message comme vous laisseriez un message sur le répondeur d'une personne de votre famille ou de vos amis qui n'est pas joignable. Et c'est limité à une minute en plus. Donc, vous n'aurez pas la crainte de vous dire que vous nous avez pris trop de temps. Donc, surtout, allez regarder. C'est en plus très pratique après parce qu'on peut les rediffuser et on peut y réagir ensemble et les rediffuser durant les épisodes. Allez jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, Matt, il y a Jean-Xavier qui a laissé un message comme ça, justement.
Oui. Bonjour Guillaume, bonjour à l'équipe de ReLife. Voilà, je souhaitais réagir un petit peu par rapport au dernier épisode sur le français qui va bien. Je trouvais cet épisode très intéressant. Il y a quelques années, c'est aussi un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et voilà, pour aller un petit peu dans cette idée-là, je conseillais à Guillaume de creuser encore avec une conférence de Arnaud Hout et Jérôme Piron, des compatriotes belges, qui ont fait une très bonne mise en scène sur ce sujet. Et tu peux visionner un TEDx qui est une sorte de résumé de cette pièce. Voilà, merci à vous pour le podcast ReLife et à très bientôt. Au revoir.
Et je ne peux qu'abonder dans le sens de Jean-Xavier parce que, alors je, vraiment peut-être que j'ai des mauvais souvenirs, mais il me semble que j'ai déjà mis en avant cette vidéo et ce TEDx, notamment dans un épisode qu'on a dû faire tous les deux, Matt. Mais en tout cas, je suis allé regarder entre-temps, évidemment, c'est la même vidéo et je souscris évidemment complètement à sa recommandation, elle est dans sa droite lignée, effectivement. Évidemment,
le titre d'ailleurs, il nous a il nous a communiqué pour nous le donner parce qu'il a pas donné le titre de ce TEDx, c'est la faute de l'orthographe.
Oui, la faute de l'orthographe, effectivement. Et d'ailleurs, on recherchera dans nos notes pour savoir si j'en avais vraiment parlé. Il me semble que oui, effectivement. Voilà. Donc, en tout cas, on sera ravis de continuer à nous frotter à l'exercice de creuser un sujet. Pour le prochain épisode, peut-être qu'on va développer un petit peu un livre. Alors, c'est toi, Julien, qui l'avais cité en premier quand on commençait à parler des perspectives de sujets abordés, mais je me suis vraiment livré à l'exercice de le lire de manière assez complète, de prendre mes petites notes et en plus de le mettre en application. C'est le livre de Fabien Olicard qui s'appelle « Votre temps est infini ». Il a plusieurs bouquins qui sont tous assez chouettes et j'ai plein de choses à dire sur ce bouquin qui a été une source de plein d'améliorations dans mon quotidien. J'ai ma conjointe qui a compris maintenant qu'assez régulièrement au long de la journée je citais Fabien Olicard, donc j'espère que ça ne l'énerve pas encore, mais voilà, on en parlera en tout cas au prochain épisode. Merci évidemment beaucoup à vous de nous écouter et bienvenue à celles et ceux qui découvrent ReLife et qui souhaiteraient vous abonner et découvrir les futurs épisodes. Et chose assez chouette, comme le font d'autres auditeurs, vous avez plein d'autres épisodes à écouter, plus d'une centaine. Alors vous allez voir, on a progressé, hein, les voix ont changé, les structures d'épisodes ont changé, mais je pense que c'est autant d'opportunités de découverte. Mais il est grand temps quand même de vous rappeler que vous pouvez nous retrouver individuellement pour aller un petit peu plus loin si jamais vous voulez contredire, compléter ou réagir plus spécifiquement à l'un d'entre nous, à l'un des sujets qu'on a porté plus individuellement. Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors vous me retrouvez sur julien.deray.fr, vous aurez tous mes liens, et sinon vous me retrouvez dans le podcast Agilis qui a pas encore fait sa rentrée. On pense changer le format, peut-être potentiellement le nom, et du coup y a beaucoup de choses à réfléchir.
Le nom,
ouais, on va peut-être essayer d'ouvrir un peu plus, de sortir un peu de l'agilité, d'aller chercher un peu un surensemble de tout ça et aller chercher plus de l'entrepreneuriat, du leadership technique en général, parce qu'on s'est rendu compte que ça fait longtemps qu'on twiste un peu les sujets, qu'on les tord un peu dans tous les sens pour les faire rentrer au chausse-pied dans la boîte de l'agilité. Et voilà, on est en train de réfléchir à tout ça, mais on est tous les deux très occupés. Pierre, mon compatriote et ami dans le podcast, est rentré en France. Oui, on s'est rencontrés à Londres et on est tous les deux partis de Londres. Donc voilà, on est occupés tous les deux, mais Agiliste reviendra sous une forme ou une autre assez rapide.
J'adore, c'est ce qui s'est passé pour Tech Café à l'époque, qui abordait juste le segment des tablettes tactiles. J'étais absolument convaincu à l'époque que ça allait remplacer l'ordinateur moderne. L'histoire m'a complètement donné raison, comme vous le savez. Et donc, évidemment, on a ouvert un petit peu le sujet avec le temps. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver?
On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube, Apple et compagnie, qui a repris sur le podcast Apple différemment, qui va reprendre et... Spoiler alerte, il va reprendre avec Tech Café. Tech Café a déjà repris, mais le premier épisode d'Apple différemment, on va le faire ensemble parce que il y a un événement qui est important pour les amateurs d'Apple dans quelques jours. Oui, au moment où vous écouterez, c'est peut-être déjà passé, mais ça va être la nouvelle keynote. Alors, je me réjouis de faire la rentrée aussi d'Apple différemment et d'avoir fait celle d'Apple et compagnie. Et si vous voulez tous les liens qui vont bien, profduweb.com, et il faut que je règle mon problème de certificat SSL.
Mince, gros sujet, très bien. Eh oui, forcément, tôt ou tard, faut se prêter à l'exercice comme la déclaration d'impôt, quoi. Très bien, merci beaucoup, Matt, pour ces rappels. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, effectivement, deux fois par semaine dans Tech Café. Dans le prochain épisode, ce sera un épisode spécial annonce Apple. Vous savez qu'il y a Guillaume Pogjaspala avec qui je fais Tech Café. Quand on fait les plannings, je lui fais ça, je me le garde. C'est un épisode avec la secte Apple. Là, on est entre nous, donc voilà. t'es libre, quoi. Et donc, il le sait, le prochain épisode sera comme ça. Et puis, vous me retrouvez aussi sur les réseaux sociaux de manière générale. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci d'être présent pour cette nouvelle saison de ReLife. On compte sur vous pour nous faire vos retours avec des avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, des étoiles sur Spotify, des commentaires audio sur relifepodcast.com. Et bien entendu, si jamais vous trouvez que le podcast a le moindre intérêt pour vous, si jamais il vous apporte de la valeur dans les temps morts du quotidien, rendez-vous sur patreon.com/relifepodcast et vous pourrez soutenir à la hauteur de vos possibilités. Ciao à toutes et à tous.
Ciao.
Ciao.